avec vous, courtement, puisque le temps est avancé, sur le transport de l'arche. Alors, la première référence est 2 Samuel, chapitre 6. 2 Samuel, chapitre 6. On fera deux lectures assez longues, donc j'essaierai de commenter succinctement, que le Seigneur puisse nous bénir par la simple lecture de sa parole. 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er. Alors, dans ce transport de l'arche, ce premier texte, je lui ai donné comme titre « Une première expérience malheureuse ». 2 Samuel, chapitre 6, verset 1er. David rassembla encore toute l'élite d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche depuis Baal et Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza et Ahjo, fils d'Aminadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uzza marchait à côté de l'arche de Dieu et Ahjo allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, de harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Peretz Uzza, ça veut dire brèche d'Uzza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit « Comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ?» Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Amen. Alors, c'est un texte qui peut nous sembler sévère de prime abord, mais je crois que nous avons entendu ce soir même un don dans lequel il y avait une certaine sévérité également. Et l'apôtre Paul nous demande dans l'Épître aux Romains de considérer à la fois la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est aussi saint, juste, et parfois il peut se révéler être sévère. Et nous avons besoin de connaître tous les attributs de Dieu pour avoir une foi saine et équilibrée. Ce texte commence bien, d'ailleurs tout se passe bien, et il est précisé au premier verset que c'est toute l'élite d'Israël que David appelle et se rassemble, 30 000 hommes d'élite d'Israël. Alors, il fallait faire de son mieux. On a sorti les meilleurs soldats, les meilleures troupes pour entourer, pour protéger l'arche de Dieu, parce que l'arche de Dieu, c'était le plus grand trésor d'Israël. C'était le symbole de la présence de Dieu. Et il fallait sortir en armes et prendre les meilleurs commandos, on dirait aujourd'hui. Les troupes d'élite. Il y a aussi un char neuf. On fait de son mieux, on met les moyens. C'est un beau char, dernier cri certainement, un de ceux que l'on pourrait admirer en ce temps-là. C'était, le dernier cri en termes d'outils de guerre. Et puis un orchestre formidable, toutes sortes d'instruments. Toute la maison d'Israël est en fête. Il y a l'unanimité. Tout le monde est d'accord. Tout le monde passe un bon moment. Tout le monde fait de son mieux pour le Seigneur. Et pourtant, nous sommes surpris, la colère de l'Éternel s'enflamme. Contre Uzza, pourquoi ? Parce qu'il commet un sacrilège. Il était interdit de toucher les objets très saints. Interdit. Dans le livre des Nombres, c'est même expliqué qu'il y a trois familles de Lévites. Chacune d'entre elles doit avoir une fonction précise dans le transport du tabernacle. Et effectivement, c'était les Kéatites qui devaient transporter les choses les plus saintes. Pourtant, dans le livre des Nombres toujours, il y avait les 12 princes d'Israël qui avaient fait une offrande de 6 chars. Et la Bible dit bien que Moïse n'avait donné aucun de ces 6 chars à la famille des Kéatites parce qu'ils devaient porter sur l'épaule l'arche du Seigneur. Il donnera les 6 chars aux autres familles, hein, les Gershonites et la troisième famille, mais les Kéatites n'en avaient aucun char. Et, mais tout cela a été oublié en ce jour. Je crois que l'enthousiasme humain, même s'il est religieux, ne pourra jamais remplacer ce que Dieu dit. Nous pourrons avoir un enthousiasme charnel, un volontarisme, une unanimité humaine, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole. Uzza commet un sacrilège, ça veut dire qu'au fond, c'est vrai que tout se passe très bien, tout le monde est à la fête, mais il y a une perte de la notion du sacré. Au fond, on ne réalise plus vraiment la sainteté de l'arche, et quand elle penche, on se permet d'étendre la main pour la toucher. Il y a une perte de notion de la sainteté de Dieu. Et Dieu rappelle sa sainteté par le biais de sa colère. Dieu rappelle sa sainteté. Je crois qu'il faut toujours garder à présent à l'esprit que l'Éternel, notre Dieu, est saint. Que c'est une des premières choses qui nous sont apprises dans la Bible. Le rendez-vous du peuple de Dieu après l'Égypte, c'est au Sinaï. Et au Sinaï, il y a eu l'érection du tabernacle. Et pendant un mois, quasiment, Dieu parle à Moïse dans le tabernacle et Moïse en a écrit le Lévitique. Et dans le Lévitique, il est écrit plusieurs fois, vous serez saints car je suis saint. Et l'apôtre Pierre reprend ce passage dans son épître pour dire, soyez saints dans toute votre conduite. Il l'applique donc encore pour nous aujourd'hui dans la vie chrétienne. Au fond, quand nous nous réunissons, ce n'est pas avant tout notre unanimité, notre bon plaisir, notre élan naturel, notre zèle religieux qui compte, c'est que Dieu soit reconnu comme saint au milieu de nous dans notre cœur. C'est que sa présence soit honorée et respectée et que nous ayons la crainte de son nom. David a peur. Il a peur de Dieu. Lui qui a composé tant de psaumes, lui qui, dont les écrits encore aujourd'hui, font tellement de bien aux croyants et nous enseignent sur la communion avec Dieu. Lui donc qui s'y connaissait en ce qui concerne la piété, là n'y comprend plus rien et il a peur. Il est repris. Comme le frère nous faisait chanter ce cantique, il y a des moments où c'est pas forcément que dans notre mauvais, que dans notre vie, ça se passe pas bien, ça se passe avec difficulté. David, lui aussi, bien qu'il fût un roi exceptionnel, bien que tout le peuple était d'accord avec lui, avait oublié certaines choses que Dieu voulait lui rappeler. David est irrité. Vous voyez, ça, ce sont nos sentiments humains. D'abord, il est zélé pour Dieu. Il chante, un autre passage nous dit même, il danse devant l'Éternel. Mais quand Dieu se révèle dans sa sainteté, ben, c'est un tout autre sentiment que David éprouve, c'est l'irritation. Il est irrité contre Dieu. On peut se dire, vous savez, nos sentiments sont lunatiques et versatiles. Si nous reposons sur, d'abord, nous-mêmes et nos sentiments, même dans la dans la foi, dans la marche avec Dieu. Nous serons bien tantôt bien disposés et d'autres fois, quand ça ne tournera pas comme nous le pensons, nous pourrons avoir vraiment de mauvaises dispositions. Ne soyons pas tributaires de nos sentiments humains, de notre état d'âme. Laissons-nous conduire par sa parole et son esprit. Nous ne sommes pas sur le même niveau. Si nous restons sur le niveau humain et du sentiment, alors nous nous tromperons quand nous serons exaltés et nous nous tromperons quand nous serons irrités. Seule la parole de Dieu pourra nous détromper. Alors au fond, à la fin, Obed-Edom est béni. Et la Bible dit « à cause de l'arche de Dieu ». Cette même arche qui a provoqué la mort d'Ouza et l'irritation de David engendre la bénédiction à Obed-Edom. Preuve donc que le souci n'était pas dans l'arche, mais dans la disposition des croyants. Obed-Edom a été béni par l'arche parce qu'il a accueilli l'arche avec la crainte qui lui était due. Amen. Et je crois que le Seigneur, au milieu de nous, sera en bénédiction à tout croyant qui honore sa sainte présence. En conclusion de ce premier texte, avant de lire le second, je dirais tout simplement, ils ont fait pour Dieu, mais pas avec Dieu. Et c'est une grande leçon. Au fond, ce qui compte pour nous, ce n'est pas de faire pour Dieu, mais de faire avec Dieu. Le deuxième texte, c'est dans 1 Chronique chapitre 15, et là on va voir que David, comme toujours, a réfléchi, s'est laissé persuader. C'est le grand atout de David, la grande qualité de David, c'est qu'il a su toujours être droit pour donner gloire et raison à Dieu. 1 Chronique chapitre 15, verset 1er. 1 Chronique chapitre 15, verset 1er. On va lire jusqu'au verset 14. David se bâtit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée, il change complètement là, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Et David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David assembla les fils d'Aaron et les Lévites, des fils de Kehath. Vous vous rappelez, l'une des trois familles, c'était la famille des Kehathites. Uriel, le chef, et ses frères, 120. Des fils de Merari, Azaja, le chef et ses frères, 220. Des fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Des fils d'Elitsaphan, Shemaéja, le chef et ses frères, 200. Des fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Des fils d'Uziel, Abinadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs Tsadok et Abiatar et les lévites Uriel, Azaja, Joël, Shemaéja, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille de Lévite. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, Dieu du Dieu d'Israël. Amen. Voilà, David a compris. David, il a mesuré son erreur, il s'est dit, on a fait ça pour Dieu, mais pas avec lui, parce que le servir, c'est le servir selon sa parole. Non pas selon nos idées, un char neuf. Ce n'est pas en modernisant le culte de Dieu que cela lui sera forcément agréable. Le culte que Dieu veut, c'est un culte par l'esprit ou en esprit et en vérité. rien ne remplacera l'onction du Saint-Esprit. Et les premiers chrétiens vivaient cette onction du Saint-Esprit dans des temps de réunion très simples, parce que Dieu se glorifie lorsque sa présence est honorée dans le cœur des croyants. Alors, David a un grand respect pour les Lévites. C'est eux qu'ils doivent s'occuper de l'arche. Ils les citent, ils donnent leur nombre. Et il dit, nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Et enfin, les Lévites eux-mêmes se sanctifient pour porter l'arche. Nous sommes sanctifiés par l'offrande de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais je pense aussi que nous devons vivre et marcher dans la sanctification, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En conclusion, David s'est laissé aller à l'enthousiasme humain, mais David s'est laissé reprendre. David a compris son erreur. David s'est soumis, s'est incliné. Oui, c'est un homme de Dieu. Et quand j'ai lu ce passage il y a plus d'un an, pour la première fois de ma vie, quand j'ai lu ce passage, c'est comme si le Seigneur me disait, tu sais, si même David s'est laissé prendre dans un culte humain dans lequel Dieu ne se trouvait pas forcément, alors c'est un piège dans lequel nous pouvons tomber, et nous n'avons pas forcément à juger autour de nous ce qui se fait. Mais que Dieu nous garde. Dans une pratique de la vie chrétienne et du culte, qui lui soit agréable. Parce qu'au fond, et je lirai deux versets pour terminer avec vous, ce qui compte, c'est le plaisir de Dieu. On peut, pour Dieu, se faire plaisir. Mais si c'est avec Dieu, cela lui fera plaisir. Alors, lisons deux versets, Éphésiens chapitre 5, verset 10. Éphésiens 5, 10. Éphésiens 5, 10. Éphésiens 5, 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Amen. Et 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Il est dit, 1 Pierre 2, 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Amen. Voilà le but de notre culte. Vous savez que dans l'Ancien Testament, les sacrifices, pas ceux pour le péché, mais d'action de grâce, l'Holocauste, étaient des sacrifices qui faisaient monter une bonne odeur envers l'Éternel. Le but de notre assemblée, de nos réunions, c'est de faire monter vers Dieu des victimes qui lui soient, des sacrifices spirituels qui lui soient agréables. Amen. C'est la raison d'être de l'Église. Nous ne voulons donc pas, comme David, faire pour Dieu, mais nous voudrions faire comme David, après qu'il ait compris certaines choses plus profondément, faire avec Dieu et que son nom soit glorifié. Amen. Prions, s'il vous plaît.